Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mardi 2 mai et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le Brief de l'Écho.
Qui est le vrai coupable de l'inflation ? La pandémie qui a provoqué des ruptures sur les chaînes d'approvisionnement ? La guerre en Ukraine qui a fait grimper les prix de l'énergie ? Ou alors, peut-être y a-t-il encore une autre explication ? Je vais aussi vous parler de la FNR Stahl qui va construire une nouvelle usine. Où ça ? Vous le saurez dans quelques instants. Sinon, vous êtes accro aux séries et aux films américains ? Attention, vous pourriez bien devoir les attendre plus longtemps que prévu. Je suis Sunshine Courrier et vous écoutez Le Brief.
Le Brief, cette info dès 7h.
Une de plus. Après Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silver Square, First Republic est la quatrième banque américaine à faire la culbute en moins de 2 mois. Sous forte pression depuis quelques semaines, First Republic n'est pas parvenue à monter un plan de sauvetage. Ses clients ont retiré plus de 100 milliards de dollars de dépôts au premier trimestre. Son action, déjà mal en point, a piqué du nez lundi matin. À tel point que les autorités sont finalement montées au créneau pour saisir First Republic et trouver un acquéreur dans l'urgence, et c'est JP Morgan Chase qui a emporté le morceau. Du coup, les marchés respirent. La First Republic, c'était tout de même un poids lourd du secteur bancaire américain, surtout sur le marché hypothécaire. C'est la deuxième plus importante faillite bancaire aux États-Unis. En jouant les chevaliers blancs qui sauvent le système bancaire américain, JP Morgan se renforce aussi. Déjà, elle profite de l'arrivée des profits des autres banques tombées en faillite. Et puis, elle parvient à faire bon prix des acquisitions qui lui auraient été interdites en temps normal pour des raisons de concurrence. Avec la First Republic, JP Morgan met aussi la main sur un portefeuille de clients assez fortuné. C'est l'activation des chômeurs de longue durée qui était au centre des discours politiques traditionnels du 1er mai. Conor Rousseau, le président des socialistes flamands de Voreuth, avait ouvert la voie. Dimanche déjà, il se prononçait pour la suspension des allocations de chômage après 2 ans d'inactivité et 2 refus d'un emploi de base. Les deux partis libéraux, MR et OpenVLD, se sont engouffrés dans cette porte ouverte. Alexander De Croo remettra le sujet sur la table de l'exécutif fédéral dans le cadre de la négociation sur la réforme fiscale appuyée par le MR qui conditionne tout accord fiscal à une réforme profonde du marché du travail. C'est en tout cas ce qu'affirmait Georges-Louis Boucher hier à Bruxelles. Même si les libéraux ne sont pas totalement d'accord sur la manière avec les socialistes flamands, MR et OpenVLD veulent y voir un changement de stratégie sur l'activation des chômeurs. Avec le CDNV, cela fait 4 partis sur 7 qui vont dans le même sens dans la majorité. En revanche, au PS et chez les écologistes, l'idée ne passe pas. Mais alors, pas du tout. Inutile de dire que le sujet fera encore débat d'ici aux élections. Pour investir dans le private equity, dans les sociétés non cotées, soit il faut avoir un très gros portefeuille, soit il faut prendre des risques dans de jeunes pousses. Moonfare veut casser ce modèle et ouvrir la porte à des investisseurs moins fortunés. La plateforme permet d'investir des 50 000 euros dans certains des plus grands gestionnaires de capital risque au monde. On pense ici à des acteurs tels que Carlyle ou encore Apax. 50 000 euros, c'est déjà pas mal, mais c'est nettement moins que le ticket d'entrée habituel dans ce genre d'opération, plus de 500 000 euros au minimum. Moonfare a déjà levé 2,5 milliards d'euros auprès de « petits » entre guillemets investisseurs, dont 2 000 Belges. Simon Souris, vous êtes notre spécialiste en private equity. Le modèle de Moonfare, c'est vraiment de démocratiser ce genre d'investissement ?
L'idée à terme, ce serait de pouvoir encore baisser ce niveau, un niveau qui est imposé par la législation européenne. Donc, on ne peut pas à ce stade aller plus bas. Mais à terme, on pourrait imaginer d'arriver à 10 000, voire 2 000, voire 1 000 euros. Et ainsi, de pouvoir vraiment démocratiser un maximum, en tout cas ouvrir la porte à un maximum d'investisseurs potentiels.
Mais c'est un peu tout le modèle du private equity qui risque de changer.
C'est vraiment une question de fond. Est-ce qu'aujourd'hui, ce financement financement qui était plutôt moyen long terme, 5 à 10 ans dans la capacité de soutien à une entreprise, qui serait de plus en plus financée par des voilà du court terme. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de forme de paradoxe qui s'introduit, d'autant que bien aujourd'hui on peut voir que les petits porteurs, les petits investisseurs peuvent être amenés à sortir bien quasiment immédiatement, un peu sur le forme d'une bourse. Voilà, ce sont toutes des questions qui émergent avec ce nouveau mode de fonctionnement du private equity.
Cela fait plus de 40 ans que ce n'était plus arrivé. Le groupe FN Herstal va construire une nouvelle usine d'armement aux États-Unis. L'AFN va investir 33 millions de dollars dans un site de production flambant neuf en Caroline du Sud, avec 176 emplois à la clé. Le dernier investissement du genre remontait à la fin des années 70. L'objectif de ce projet d'expansion est simple: mieux répondre aux besoins des clients sur le marché local, c'est-à-dire l'armée américaine, les forces de l'ordre et les revendeurs agréés. Il faut dire que FN America reste un des piliers de l'entreprise d'armement détenue par la région wallonne, et la filiale connaît une croissance significative ces dernières années dans un marché qui ne ralentit pas. Le début des travaux est prévu pour 2024 pour une mise en service courant 2025. Le problème avec l'inflation, c'est qu'elle risque un moment ou l'autre de s'alimenter elle-même. Les coûts augmentent, les entreprises augmentent leurs prix, donc les coûts augmentent et le cercle vicieux est enclenché. Depuis 2 ou 3 ans, l'inflation était principalement due à des pénuries de certaines marchandises après la crise sanitaire. Ensuite, à la reprise massive de la consommation après des mois de privation. Et puis, dernière couche de cette lasagne inflationniste, les prix de l'énergie ont grimpé en flèche. Mais là, l'inflation actuelle persistante viendrait plutôt de la cupidité des entreprises, ou pour le dire de manière plus politiquement correcte, de leur tendance à augmenter leurs prix plus fort que leurs coûts pour protéger leurs marges bénéficiaires. C'est ainsi qu'est né le terme « greedflation », c'est-à-dire de la contraction de « greed », avidité en anglais, et d'inflation. Bonjour Philippe Gallois.
Bonjour Seung.
Cette situation inquiète un peu la Banque Centrale Européenne, mais elle ne peut pas faire grand-chose visiblement. Expliquez-nous.
Plusieurs membres de la BCE, et non des moindres, se sont exprimés ces derniers jours à ce sujet-là. Et ils ont tous constaté en fait qu'effectivement, l'année dernière, la hausse des prix avait été influencée en grande partie par l'inflation des marges bénéficiaires d'entreprises. C'est quelque chose que la Banque Centrale Européenne surveille de près. Alors, est-ce que la Banque Centrale Européenne peut agir sur ce phénomène d'exagération, quelque part, des hausses de prix de vente des entreprises? Ben non, elle ne peut pas aller dire aux entreprises « Ah non, non, n'augmentez pas vos marges autant ». Ça, c'est pas possible. Tout ce que la Banque Centrale Européenne peut faire, c'est augmenter ses taux d'intérêt. Le problème, c'est qu'on est dans une situation où on n'a pas envie que la Banque Centrale Européenne ralentisse trop fort la croissance, parce que on a besoin d'investir actuellement pour la transition énergétique, pour la transition écologique, pour faire face à ce que d'autres régions du monde comme la Chine et les États-Unis sont en train de faire.
On peut être belge et voyager dans le monde entier sans avoir jamais mis les pieds en Flandre. Bon, je schématise, mais c'est à peu près ça. Continent Insolite, le spécialiste des voyages privés et tours du monde sur mesure, vient en effet de conclure le rachat de son homologue flamand, Atlas Reisen. Jusqu'ici, Continent Insolite n'était en effet pas présent en Flandre. Atlas Reisen et Continent Insolite ont le même positionnement en proposant des voyages assez exclusifs et plutôt haut de gamme. C'est une première acquisition importante pour le voyagiste depuis sa reprise par la famille Leaudet en 2018. La croissance par acquisition fait maintenant clairement partie de la stratégie de développement. Écoutez Alexis Leaudet, c'est lui qui a chapeauté l'opération.
C'est exactement ça, le cœur de la stratégie de Continent Insolite, c'est de trouver des maisons de voyage qui ont des positionnements, des ADN, des typologies de clients assez proches de celles de Continent Insolite et qui sont à la recherche d'une plus grande plateforme de développement sur laquelle elle pourra mutualiser les investissements IT qui sont nécessaires pour le développement de l'entreprise et pour permettre d'avoir des meilleurs outils. Sur le marché belge, Continent Insolite et Atlas Reisen sont un peu deux maisons iconiques et un peu leaders. Par contre, il y a certainement d'autres cousins, comme je les appelais, dans le reste de l'Europe et du monde, qui ont des typologies très comparables et sur lesquelles, de fait, des alliances, des partenariats, des acquisitions pourraient être envisagées, discutées.
Hollywood tremble. Aucun accord n'a été trouvé cette nuit. Le puissant syndicat des scénaristes pourrait donc lancer une grève générale de ses membres. Cela entraînerait l'interruption immédiate des émissions à succès comme les late night shows et retarder de manière importante les séries télévisées et les films dont la sortie est prévue cette année. Cela fait plus de 15 ans que l'industrie du cinéma n'avait plus connu pareille crise. Un conflit de 100 jours avait coûté 2 milliards de dollars à l'époque au secteur. Les scénaristes de télévision et de cinéma américains réclament une hausse de leur rémunération. En clair, ils veulent leur part du gâteau des profits réalisés par les grandes plateformes de streaming comme Netflix. Une hausse de leur rémunération, mais aussi de leurs droits résiduels sur la rediffusion des œuvres. Les scénaristes demandent que ces droits soient adaptés en fonction du succès du film ou de la série. Ils réclament aussi des assurances contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'écriture de scénarios. Merci d'avoir écouté Le Brief. Je vous souhaite une excellente journée. Laurent Fabry était à la production de cet épisode. Et si ce brief vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner et de nous mettre des bons commentaires dans les applis d'écoute de podcast et aussi un maximum d'étoiles. À demain!
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.